Donc, je vais vous parler donc de la méthode de calcul prévisionnel de fertilisation et l'action qu'a menée le Comifer et le RMT Fertilisation Environnement pour encadrer la mise en application de ce calcul prévisionnel. Donc, cette action est dans le cadre du contentieux européen que l'Europe avait avec la France sur la mise en place des programmes d'action dans les directives, dans les zones vulnérables. Et la France avait un contentieux sur la définition, la délimitation des zones vulnérables qui n'était pas suffisante, et sur le renforcement et l'harmonisation des programmes d'action dans ces zones vulnérables, puisqu'il y avait plus de 70 programmes d'action, pas tous très cohérents et pas tous totalement finalisés. Donc la première réponse de la France a été d'augmenter les surfaces en zones vulnérables. Donc voilà la dernière carte des zones vulnérables. Donc ça a été, il y a eu des arrêtés régionaux qui ont été faits pendant l'hiver 2012-2013. Et le contentieux sur le programme d'action, donc c'est une réforme qui s'est mise en place depuis l'automne 2011, qui aurait dû aller jusqu'en mi-2013, en fin de compte, au niveau régional, ça devrait, les programmes d'action régionaux devraient se mettre en place au printemps, voire été 2014. Donc le cadre, c'est un programme d'action national qui donne des mesures obligatoires sur la France, qui reprend des mesures du Grenelle de l'environnement, notamment par rapport au CIPAN. C'est renforcer les programmes d'action régionaux. Donc ces programmes d'action régionaux doivent renforcer le programme d'action national. Et on peut mettre des mesures complémentaires compte tenu des contextes pédoclimatiques de chaque territoire. Et il était prévu l'appui technique et scientifique en région par la création de groupes régionaux d'expertise nitrate qu'on appelle GREN. Alors, la réponse de la France, donc, ça a été l'arrêté du 19 décembre 2011, relatif au programme d'action nationale. Et il y a eu, le 23 octobre 2013, un arrêté modifiant l'arrêté du 19 décembre, plus un autre arrêté qui encadre la mise en application au niveau des régions. Alors, l'arrêté du 19 décembre, il y a un certain nombre de mesures qu'on n'a pas traitées, qui concernent les capacités de stockage des effluents d'élevage. Donc ça a été renforcé par l'arrêté du 23 octobre dernier. Stockage de certains effluents au champ, notamment il reste des problèmes sur les stockages d'effluents de fumier de volaille qu'on pouvait faire au champ et on ne peut pas tous les faire. Période d'interdiction d'épandage des fertilisations azotées avec une augmentation des périodes d'interdiction et conditions d'épandage près des cours d'eau, sol en pente, sol humide, des choses comme ça. Et il y a une partie sur la limitation de l'épandage des fertilisations azotées afin de garantir l'équilibre de la fertilisation azotée. Donc ça, c'est dans ce cadre-là que nous sommes intervenus. Et modalité d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques. Les agriculteurs depuis longtemps sont obligés de faire des plans de fumure prévisionnels et de faire des cahiers d'épandage. Ce qui est renforcé, c'est comment on les fait, quels sont les paramètres qu'on peut mettre dedans. Et modalité du calcul de la quantité maximale d'azote contenue dans les effluents d'élevage pouvant être épandue par chaque exploitation. Alors dans ce texte, c'est là que vient le Comifer, il est noté que le calcul de la dose prévisionnelle de la fertilisation azotée s'appuie sur la méthode du bilan azoté prévisionnel détaillée dans la publication la plus récente du Comifer, donc qui est mise en ligne sur le site du Comifer, donc c'est chargeable, il y a les méthodes validées par le Comifer. Alors je dis méthode parce que c'est plus ou moins simplifié, plus ou moins complexifié. Et les programmes d'action jusqu'ici étaient départementaux, maintenant sont régionaux. Donc au lieu d'avoir plus de 70 programmes départementaux, il n'y en a plus que 20, donc ce qui permet une plus grande lisibilité vue de l'extérieur de ce qui est proposé. Et donc il y a les graines dans chaque région qui définit le référentiel régional nécessaire à la mise en œuvre de la méthode du Comifer. Donc, dans les compositions du GREN, il y a des membres de droit, c'est le directeur régional de l'environnement et directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant. Je dirais que c'est eux qui statuent au nom du préfet et qui arbitrent les discussions qui peuvent se avoir au niveau régional. Et on a des membres nommés, donc c'est deux experts azote des services déconcentrés de l'État, donc ça peut être l'enseignement, ça peut être des DDT, des DPP, des experts des chambres d'agriculture, hein, de chaque région, des experts des instituts techniques, hein, experts des coopératives agricoles, et dans certaines régions, il a été rajouté des experts du négoce, des experts des établissements de recherche et d'enseignement, et un expert de l'agence de l'eau. Donc c'est ces gens-là, hein, qui définissent le mode de calcul du bilan azoté au niveau de la région. Hein. Donc il y a un arrêté qui a été signé pour la campagne 2013, et il y a des rediscussions dans les régions actuellement, voire certains. On a dit que Champagne-Ardenne avait déjà signé le nouvel arrêté, graines, pour la saison 2014. Hein. Donc c'est des arrêtés qui pourraient être modifiés chaque année, hein, s'il y a des choses qui ne collent pas. Alors c'est dans ce cadre-là que le RMT et le Comifer a proposé au ministère un accompagnement d'accompagner les graines pour leur travail. Proposition qui a été acceptée, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on consomme. Alors les dates d'entrée en application de nouvelles règles, c'est du 1er septembre au 5e programme d'action, 1er septembre 2012 au 5e programme d'action régionaux. C'est pour ça qu'actuellement on n'est pas très clair, on est encore sur le 4e programme d'action avec le programme, avec l'arrêté du 19 décembre 2011, plus les arrêtés graines. Alors, en tant que chambre d'agriculture, on a du mal à communiquer sur ce qui est valable ou pas valable. Donc, il y a des programmes d'action nationaux qui s'appliquent sur les calendriers d'épandage, mais qui vont être renforcés mi-2014. Obligation d'application d'épandage et fertilisation azotée, donc les pentes, les choses comme ça. Modalité d'établissement du plan de fumure, ça, c'est cadré par les graines. Modalité de calcul de 170, ça c'est valable, et l'équilibre de la fertilisation. Donc normalement, en mi-2014, tout devrait se stabiliser pour le 5e programme d'action. Donc l'action du Comifer et du RMT en application, donc en appui aux graines régionaux. Donc ça a commencé par une réunion le 15 mars 2012. Où on a fait le point sur la méthode des bilans, sur des applications de cette méthode des bilans au niveau régionaux, avec des exemples, on a montré un peu la variabilité de ce qui était fait au niveau région, et étaient invités des représentants de l'ensemble des graines afin de démarrer leur travail. Hein, donc il y a eu 230 participants et de représentant l'ensemble des régions où des graines se sont mises en place. Hein. Toutes les régions n'ont pas de zone vulnérable, hein, mais la majorité en a. Donc les missions du Comifer et du RMT, c'était de répondre aux questions des graines et des ministères remontant des différents graines. Un groupe... je me répète là. Et il y a eu une embauche de Prune Rosengarden là, qui est dans la salle, qui a été remplacée par Marion Bouviala, qui est aussi dans la salle, et à partir de juin ou juillet 2013. Donc l'encadrement et l'accompagnement est représenté l'INRA, hein, le LDAR, le labo d'Agronne Milan, Arvalis, Yara, la PCA, InVivo, c'est la chambre 45 et d'autres chambres qui se joignent à nous de temps en temps, et Rochem Agro. Alors, la mission du Comifer, c'est l'appui au groupe de travail, c'est rassembler et structurer les références nationales nécessaires à l'établissement du conseil de fertilisation azotée, hein, que devront mobiliser les groupes régionaux d'expertise nitrate. Donc, en premier temps, c'est organiser et mise à disposition des références nationales. Donc, c'est compléter le document du Comifer sur la méthode des bilans. Et en deuxième temps, c'est une grille de lecture des outils de calcul du bilan, hein, grille qui va aider au recensement et sélectionner les méthodes de calcul. Parce qu'il n'était pas dans l'intention que ces grilles de calcul proposées par les graines effacent tous les outils existants dans la campagne qui sont parfois plus fins que ce qu'on peut faire avec les grilles. Grilles de calcul proposées par les graines qui, en théorie, devaient être des grilles simples où le calcul pouvait se faire à la main, ce qui n'est pas forcément le cas partout. Donc les actions menées, donc c'est l'ouverture d'une rubrique bilan d'azote sur le site internet du commissaire, hein, donc où le travail fait par ces groupes et par ces deux ingénieurs est recensé, et quand c'est validé, c'est mis sur ce site. Hein. Tout est d'accès gratuit, hein, donc vous allez sur le site du commissaire, il y a bilan d'azote et vous trouvez tout avec toutes les références et toutes les normes. Hein. Donc il y a eu des rédactions de fiches culture avec l'aide des différents instituts techniques, où en était leur vision de modèle prévisionnel pour leur culture, donc betteraves, épinards, pois, enfin bon, il y a un nombre important de cultures. Donc ces fiches, une fois qu'elles ont été validées, sont mises sur le site, et elles sont mises en parallèle des tableaux de référence nationale, donc ça a permis d'actualiser les besoins des plantes, soit par quintal, soit forfaitaire. Il y a été mis aussi un outil de calcul en ligne pour la minéralisation de l'humus du sol. Il y a eu une actualisation des coefficients d'équivalence azote des produits organiques et augmentation du nombre de produits référencés. Donc là, il y a eu des simulations qui ont été faites, je crois, sur STIC, qui ont été faites sur Azofert. Il y a une synthèse d'études qui va travailler sur ces différents produits. Donc, bon, je vous ai mis un exemple. L'idée, ce n'est pas de les lire, mais ça, c'est sur le site du commissaire. Donc là, il y a des grilles sur... ici, c'est les boues, les différentes boues. Il y a des choses sur... les fumiers, hein, avec des KEQ sur la période du bilan, des KEQ sur d'autres périodes. Il y a les valeurs des différents produits. Hein. Donc c'est une synthèse des connaissances actuelles qui pourront être réactualisées, hein, puisque dans les règles, on doit reprendre les données les plus récentes. Il y a eu un certain nombre de questions qui sont remontées après le travail des graines. Donc, j'en ai mis quelques-unes en exemple. Donc là, c'était le cas des bilans négatifs. Dans le cadre surtout de la betterave, il était prévu, même si on avait un bilan négatif, de pouvoir apporter 30 kg d'azote pour aider aux betteraves de remonter. Certaines régions avaient pris en compte ça, d'autres n'avaient pas pris en compte ça. Donc actuellement, c'est... À partir du moment où on a un bilan négatif, ça sera zéro. Et puis si on a un bilan entre 0 et 30, on tolère de pouvoir mettre 30 kg d'azote. Donc ça modifie des choses dans certains logiciels. Une des questions qui avait été posée, c'est la volatilisation de l'azote. Hein, il y a tout de même un but d'harmonisation au niveau national des concepts pris en compte. En rouge, en bleu plutôt, vous voyez les régions qui avaient pris en compte la volatilisation de l'azote dès le conseil, hein, c'était du style 10% sur les sols neutres et 15% sur les sols calcaires. D'autres régions n'avaient pas pris en compte ceci. Alors, il y a eu dans chaque région, il y avait des discussions, hein, du pour et du contre. Donc, il a été demandé un arbitrage. Donc, ce qui a été proposé, hein, c'était de donner des conseils pour éviter réduire la perte ammoniacale par des pratiques adaptées et utiliser une grille d'évaluation du risque avant chaque apport. Les travaux qui ont été présentés hier matin vont permettre d'aller un peu plus loin dans la grille, hein, notamment ce qu'a présenté Jean-Pierre Cohen et les deux marques sur la volatilisation de l'azote, ça va donner des éléments, hein, à affiner cette grille. Donc ce qui est actuellement validé et mis sur le site, c'est une grille de ce type, hein, donc à faire Alors, ça complexifie les choses. Hein. Quand on prenait 10% au début, maintenant, on prend une grille à chaque apport. On ne simplifie pas les trucs. Hein. Alors, je dirais qu'au niveau agricole, c'est ce qu'on va nous reprocher sur le terrain. Donc là, c'est une grille qui prend en compte les connaissances. Hein. Donc, l'influence du pH sur la volatilisation, l'influence de la CEC donc, sur la volatilisation, l'influence... Donc ça, c'est des valeurs stables sur une parcelle. Par contre, on a l'influence climatique qui est importante. C'est la pluviométrie prévue à 3 jours. Hein. Il pleut ou il ne pleut pas, il y a ou pas volatilisation. La vitesse du vent au moment de l'application et les températures plus ou moins fortes. Hein. On l'a vu hier qu'en fonction de ça, bah, même l'ammonitrate qui était considéré comme ne volatilisant pas, dans certains cas, Jean-Pierre nous l'a montré, qu'il y avait des volatilisations possibles. Donc là, on a une note globale et en fonction de cette note, on pourra appliquer un coefficient de 0 à 15% au niveau volatilisation. Alors, vous voyez qu'on ne prend pas les cas où il y a 50% de volatilisation parce que peut-être qu'au niveau environnemental et agronomique, ça finit par être aberrant. Donc il y a eu dernièrement une demande qui est un peu dans ces cadres-là, c'est pas tout à fait dans l'élaboration des plans de fumure prévisionnels, mais ça se rapproche, c'est l'actualisation de la table des exportations en azote des productions végétales, donc qui a été mis en ligne dernièrement. Hein, donc ça, c'est les exportations, c'est pas les besoins, hein, c'est bien ce qu'on exporte de la parcelle. Donc c'est pareil, synthèse de référence venant de différents instituts techniques et mise en forme. Hein, donc on ne voit rien, mais c'est sur le... Alors vous l'avez, il doit y avoir un 4 pages que vous avez dans vos sacs, hein, qui est tout chaud, qui sort de l'imprimeur. Il y a eu un travail aussi sur la précision de la fertilisation azotée des prairies. Hein, donc dans un cadre où on veut... faire une fertilisation azotée assez fine. Alors, il y a un débat dans les régions où on a de la prairie pas très intensive, est-ce qu'il faut aller sur quelque chose d'aussi complexe? Mais il y a un travail qui a été mené là-dessus. Et il y a des travaux en cours. La rédaction d'un guide méthodologique sur la validation des outils de conseil de fertilisation azotée. C'est jusqu'ici, les outils ont continué tels qu'ils étaient, avec quelques adaptations par rapport à ce qui est sorti dans les graines. Mais il y a une volonté donc, qui sera fait courant 2014, mais valable en 2015, sur une validation des outils. Ce qui fait qu'un agriculteur utilisant ces types d'outils venant... soit d'Internet, bon, hier on a vu Epicless, il y a Azofert, il y a différents outils qui existent. Hein, c'est comment les valider. Hein. Donc il y a une proposition, c'est un travail qui est en cours. Actuellement, c'est la description des logiciels, test des logiciels sur des cas types, étude de la variabilité des doses calculées par plusieurs outils, en sachant qu'on propose que la grille graine ne soit pas forcément l'outil de référence, mais que la référence, ça soit la moyenne de ce que les différents outils vont proposer. Hein. Et la discussion, c'est à partir de quel moment un outil est qualifié ou disqualifié en fonction des différences de conseils proposés par ces outils. Et il y a un travail aussi que fait Marion actuellement, c'est d'essayer de voir s'il y a besoin de faire une régionalisation des coefficients d'équivalence azote des produits. Est-ce que un fumier pendu en Bretagne et un fumier pendu en Lorraine va fournir la même quantité d'azote ou dans le Midi va fournir la même quantité d'azote sur la même culture? Donc elle essaye de voir s'il y a besoin ou pas de faire une régionalisation de ces coefficients. Donc ben, je vous remercie. Puis je laisse.
Merci beaucoup Bernard aussi d'avoir tenu les temps et fait court. Donc en fait nous avons prévu une vingtaine de minutes donc du temps pour la discussion. Donc cette discussion, elle peut porter soit sur le contexte réglementaire, je pense que dans la salle, il y a Emma Doucet du ministère de l'Agriculture, je ne la vois pas, mais qui était, voilà, qui va peut-être apporter des compléments ou des éclairages ou répondre à certaines questions. Mais vos questions peuvent aussi concerner finalement les missions que se sont données le RMT, le commissaire d'accompagnement, ou les questions peuvent aussi concerner certains usages de certaines références techniques. Enfin, on a plusieurs volets possibles de discussion. Donc, voilà, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous, Emma, vous voulez... n'oubliez pas les intervenants de vous présenter, s'il vous plaît.
Donc, bonjour, Emma Doucet, donc, du ministère de l'Agriculture à la DGPAT. Je suis chargée de mission sur tout ce qui est question de nitrate. Donc, en effet, nous, on tient déjà à remercier le RMT et le commissaire pour le gros travail technique qui a été effectué depuis 2011-2012 en appui à toute la réforme qu'on mène par ailleurs, et en particulier sur tout ce qui est équilibre de la fertilisation. Et aussi un gros merci à Prune Rosengarten et Marion Bouviala, et puis à tous les membres des Graines. Tout ça nous est très utile pour essayer de défendre notre position devant la commission dans le cadre du contentieux sur tout ce qui est équilibre de la fertilisation, justement. Voilà, après je peux répondre à des questions par ailleurs, s'il y en a.
Si. Donc, y a-t-il des questions? Oui.
Oui, Pierre-Yves Tourlière, Team Acagro. Dans l'adaptation des graines, il y a des choses qu'on comprend qui sont liées à la régionalisation, mais il y a des choses qui sont un peu moins compréhensibles. En particulier, moi j'ai découvert par exemple au niveau du graine Midi-Pyrénées, qu'il y avait l'application d'un coefficient apparent d'utilisation sur le maïs grain. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on a du maïs grain en Pays de Loire ou en Bretagne.
Il y a dans la méthode du bilan commifère, il y a les différentes méthodes qui sont utilisées. Et il y a effectivement des régions où il y a un coefficient apparent d'utilisation. D'autres régions, moi je vois en région centre, le maïs, on le traite comme les autres cultures. Alors il y a un historique, hein. Il y a des références régionales. Alors, il peut y avoir des incohérences. Alors, je ne dis pas que là, il y a une incohérence. Normalement, les graines ont eu une lettre de mission pour corriger, s'harmoniser entre différentes régions, hein, notamment les régions limitrophes, s'il y a des choses qui sont différentes et pas forcément justifiées par de la référence locale. Hein. Donc, Sur ces coefficients apparents, il y a des régions qui ont développé, alors notamment dans le cadre des... Alors il y a le maïs, hein, référence qui avait été développée par la GPM, bon, Arvalis maintenant. Il y a les zones à cailloux, hein, où il y a l'utilisation de CAU, donc à PC Azote dans la région, avec une déclinaison région centre avec SCAN. Et puis on a en Lorraine des méthodes développées avec des coefficients apparents, avec un historique de référence régionale, de fourniture du sol et des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on aborde de façon un petit peu différente le calcul de la fertilisation, ce qui est autorisé dans le cadre à partir du moment où on reprend une méthode qui est déclinée dans le document du grain. Après, il faut vérifier si dans le secteur, il y a eu des références suffisantes pour maintenir cette méthode ou pas. Quoi.
Juste une deuxième question. On voit apparaître de plus en plus de cartographies pédologiques sur le potentiel des parcelles et le niveau de rendement potentiel lié à la fertilité entre guillemets des sols. Est-ce que c'est une pratique qui va se généraliser, c'est-à-dire entre guillemets, est-ce qu'on va standardiser les rendements potentiels liés au potentiel agronomique des sols?
Pourquoi pas? Ceci dit, je ne suis pas sûr qu'on ait des cartographies suffisamment fines pour donner un avis sur chaque parcelles. On a vu là, hier, on nous a présenté des choses qui se font en Belgique, et je crois qu'il y a 2 ans, on nous l'avait présenté, où visiblement il y a une cartographie fine de chaque parcelle qui permet peut-être de descendre à ce niveau-là. Il y a des propositions qui avaient été faites dans le cadre du RMT sol d'utiliser les cartes aux 50 000 pour faire des typologies de sol. Hein, donc je ne sais plus comment ça s'appelle, CASDAR type sol. Hein, donc ça, c'est le RMT va peut-être déjà proposer des typologies, ce qu'a dû présenter Valérie Duchesne hier. Et à partir de là, pourquoi pas décliner des potentiels. Ceci dit, nous, ce qu'on nous a demandé en région centre, c'est que effectivement, on a dû fournir une grille de potentiels. Au départ, la DRAS nous proposait un potentiel, le blé dans le Loiret, c'était tel rendement. On a dit qu'on pouvait faire plus fin, mais il a fallu qu'on prouve que si on faisait un potentiel différent en fonction de grands types de sol, la moyenne pondérée des surfaces de ces types de sol soit équivalente aux statistiques de la DRAS. Et donc ça, ça serait peut-être bien, mais à mon avis, c'est un boulot qui ne va pas se faire dans les années qui viennent. Alors, le 250 000 avance. Hein, il y a Dominique Arouet, là, qui est dans la salle, qui pourrait nous dire où on en est, qui pourrait être une aide, mais c'est que du 250 000. Ce n'est pas la parcelle.
Oui.
Je complète... Emma. Je complète juste pour dire que dans la réglementation, en effet, donc, pour la plupart des méthodes, on a besoin d'un objectif de rendement pour déterminer la dose prévisionnelle à apporter. Mais il est précisé que on se sert en premier lieu des objectifs de rendement historiques, donc de l'exploitation, si possible pour des types de sols comparables. Et donc, on utilise bien des références propres à l'exploitation. Et c'est si on n'a pas ces références-là qu'on va utiliser les objectifs de rendement qui sont fixés par défaut dans les arrêtés qui fixent les référentiels au niveau de chaque région. Donc, ce travail est très utile, mais en premier lieu, on privilégie les références propres à l'exploitation.
Ces rendements, c'est un des points qui pose problème au niveau du terrain. Et d'autant plus qu'on demande aux agriculteurs d'augmenter leur rotation, la longueur de leur rotation, donc d'avoir plus de cultures sur leur surface. Et ils finissent par avoir du mal à avoir 5 années de suite des référentiels sur la parcelle. Enfin, pas sur la parcelle, sur le type de sol de l'exploitation. Et on se rend compte qu'on aura peut-être recours de plus en plus à ce référentiel départemental, voire petite région. Et s'il n'est pas suffisamment fin, ça peut poser des problèmes.
Oui. Y a-t-il d'autres questions, j'imagine ? Non ? Parce que Bernard Verbeek a présenté ça de manière très sereine et apaisée, mais derrière tout ce travail, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de débats et des fois beaucoup de désaccords. Mais c'est ça tout l'intérêt d'avoir recruté des personnes à plein temps qui ont pu faire cette accélération finalement de la mise à disposition des références. Donc,
non. Ah, pardon.
Voilà. Christian.
Oui, mais Christian Walter, j'aurais voulu élargir un peu le débat. Et on l'a vu dans un poster encore hier, il y a beaucoup de différences de raisonnement selon les pays d'Europe. Est-ce qu'il y a aussi une tentative, un peu d'homogénéisation des modes de raisonnement de la fertilisation azotée à l'échelle de l'Europe, même si la régionalisation est bien évidemment une bonne chose, puisqu'elle permet de tenir compte des contextes, notamment pédoclimatiques locaux, mais est-ce qu'il y a aussi une voie un peu d'approche européenne des méthodes de fertilisation ?
On peut dire que dans le cadre du RMT fertilisation environnement, on a quelqu'un qui représente la Suisse et quelqu'un qui représente la Belgique. Alors, est-ce que c'est un début de contact?
On peut peut-être répondre, enfin, peut-être, je ne sais pas si Madoucé veut répondre sur le plan de la réglementation européenne un peu ou des tendances, mais sur la stratégie, je pense, du Comifer et du RMT, on a, en tout cas pour l'avenir, bien une stratégie de présence déjà au niveau européen et puis d'interaction accrue avec nos équivalents, mais des fois on a du mal à trouver nos équivalents, enfin, parce que les formes d'organisation ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a, je pense, mis beaucoup de temps, d'énergie, de travail à travailler ensemble au niveau français. Et c'est déjà un gros challenge. Mais c'est vrai que maintenant on se dit, il faut absolument être à la fois plus au courant, mais plus présent aussi. Hein, sur la scène européenne aussi pour faire passer, parce que dans un certain nombre de domaines et sur certains outils, sur certains modes de raisonnement, on n'a en tout cas pas du tout à avoir honte et même on est plutôt en avance. Donc il y a à connaître bien ce que font les autres, mais c'est aussi bien faire connaître ce qu'on fait de mieux. Voilà, donc ça c'est la stratégie pour les années à venir.
Du coup, pour ce qui est de la réglementation au niveau européen, donc dans la mise en œuvre de la directive nitrate, pour la mesure limitation de l'apport de fertilisants azotés pour respecter l'équilibre de la fertilisation, la plupart des États membres ont en fait fixé des plafonds par culture, en général qui sont par ailleurs déclinés par type de sol, éventuellement par fourchette d'objectifs de rendement, etc. Mais c'est ce choix-là qui a été fait. Alors après, sur le poster, j'imagine que justement ça reflétait les différents paramètres qui ont été pris en compte pour fixer ces différents plafonds. Nous, la position française dans le cadre du contentieux, c'est de défendre une approche agronomique et de défendre la méthode du calcul prévisionnel de l'équilibre de la fertilisation et non d'un plafond. Et donc c'est pour ça que tous les travaux du commissaire RMT et de chacun des graines sont très importants et sont indispensables pour défendre cette position-là. Voilà.
Pardon, voilà.
Voilà, bonjour Bertoni, ENSAT. Je voudrais vous demander si vous pouvez nous dire quelque chose de l'extension des zones vulnérables ces dernières années.
Alors, je vais peut-être laisser parler Emma Dusset, qui a une vision nationale.
Moi, je vais revenir vers elle.
J'ai une vision départementale.
Donc, enfin, l'extension des zones vulnérables qui a été effectuée là se fait aussi, comme ça a été présenté par Bernard Verbeek, dans le cadre d'un contentieux européen sur un défaut de délimitation des zones vulnérables. La Commission ayant identifié 10 grands secteurs en France dans lesquels elle estime que les délimitations de zones vulnérables ne sont pas suffisantes. Du coup, lors de la révision des zones vulnérables, il a été demandé au préfet de bassin de faire attention dans ces zones-là et de classer dès lors que c'était nécessaire. Ça a été appliqué. On vient de présenter cette nouvelle délimitation à la commission. Et voilà, je peux difficilement en dire plus.
Localement, ce qui semble avoir posé problème, donc pas dans le Loiret, parce qu'on est un peu loin de la mer, mais c'était la prise en compte de la pollution marine et notamment du taux de nitrate assez faible au niveau du versement en mer, hein, puisque je ne sais plus combien, c'était 11 ou 12 mg litre au niveau des fleuves. Et donc ça a posé un problème, parce que ça prenait en compte tout de même des bassins versants, des zones, des bassins versants assez importants, quoi. Hein, je vois qu'au niveau région centre, c'est le point de conflit qu'il y avait entre la profession agricole et les propositions de l'administration, quoi.
Du coup, sur ce point, en effet, la directive précise que pour délimiter les zones vulnérables, il faut à la fois tenir compte de la qualité des eaux superficielles et souterraines et aussi des risques d'eutrophisation liés à un excès d'azote. Dans le cas du contentieux, la Commission nous reprochait aussi de ne pas bien tenir compte de ce paramètre eutrophisation, et donc il a été mieux pris en compte dans cette nouvelle délimitation, avec en effet des impacts non négligeables et donc des discussions assez compliquées dans certains bassins.
Merci. Y a-t-il d'autres commentaires ?
Donc, Odile Tovel pour la Chambre d'agriculture de l'Eure et la Haute-Normandie. Moi, je voudrais soulever un point par rapport aux zones d'action renforcées. Aujourd'hui, on a un point d'achoppement avec l'administration et l'agence de l'eau. sur les actions supplémentaires à mettre en œuvre dans ces zones d'action renforcée, et notamment avec la balance azotée globale donc, qui sort en tête de ligne sur les mesures à imposer donc, dans ces zones d'action renforcée. Et dans nos systèmes céréaliers du sud de l'Eure, pour avoir une balance azotée globale inférieure à 50 kg d'azote, eh bien, on va être obligé de ramasser nos pailles. Donc on arrive à des contradictions agronomiques, parce qu'aujourd'hui, une fertilisation raisonnée nous permet en système paille enfouie de tenir un 50 kg, mais pas forcément de descendre beaucoup en dessous, surtout en plus avec un aléa climatique assez fréquent. Donc je voudrais savoir, est-ce qu'il y a vraiment obligation de passer par ces mesures du socle, enfin de l'arrêté ZAR, ou est-ce qu'on peut faire d'autres propositions?
C'est pareil, je vais laisser Emma, parce que nous on a le même problème. Hein, on pense que c'est des zones qu'on rajoute à d'autres zonages. On a la directive Nitralt, les bacs Grenelle, on voit d'autres captages qui reviennent avec des zones où il n'y a aucune délimitation. Je vois même, on avait proposé des captages, grosso modo, ça fait 15 ans qu'on sait qu'ils sont pourris parce que le captage est vieux et obsolète. Bon, enfin, on pense que ça en rajoute une couche qui n'était pas forcément nécessaire. Quoi. Donc, je ne sais pas si le ministère pense la même chose.
Pas tout à fait. Du coup, toute cette question des zones d'action renforcées est liée à l'articulation entre la directive 4 sur l'eau qui fixe des objectifs de qualité de l'eau à atteindre à échéance 2015, 2021 ou 2027 selon les masses d'eau, et la directive nitrate. La commission considérant que la directive nitrate à elle seule doit permettre de régler tous les problèmes de qualité de l'eau. Donc c'est pas la position... Enfin, c'est pas tout à fait la position française, mais on a tout de même on estime tout de même qu'il y a besoin de renforcer un petit peu sur les zones à enjeux les plus forts le socle réglementaire de base. Donc c'est pour ça qu'il y a des mesures supplémentaires dans les zones d'action renforcées. Pour ce qui est du choix des mesures, dans l'arrêté, donc c'est l'arrêté du 7 mai 2012 qui précise quelles mesures doivent être mises en œuvre sur ces zones d'action renforcées. Il y a toute une liste de mesures qui sont, enfin, un choix de liste qui est laissé, dans lequel la balance globale azotée apparaît parmi d'autres, mais ensuite le choix est plus large et doit être fait en tenant compte donc des particularités de chacune des arts et des enjeux, etc. Mais ensuite, ça, c'est au niveau régional que ça se discute en effet.
Ça veut dire que la balance globale azotée n'est pas obligatoire?
La balance globale azotée n'est obligatoire que dans les anciennes zones d'excédent structurel et... dans les anciennes zones d'action renforcées, enfin, c'est avec une nuance, on peut aussi, sur les anciennes zones d'action renforcées, choisir une autre mesure.
D'accord.
Merci.
Nous rentrons dans les complexités de la réglementation nitrate. Hein. J'espère que tout le monde suit. Il y a pas mal d'acronymes aussi à digérer, là.
Oui.
Oui, bonjour. Lionel Jordan-Meil, Bordeaux Sciences Agro. Je voulais juste apporter un témoignage supplémentaire par rapport à l'hétérogénéité des modes de raisonnement de l'azote par rapport aux posters réalisés par les étudiants. Ce qui nous a semblé très très différent d'un pays à l'autre, c'est par exemple la prise en compte des arrières-effets des matières organiques. Aux Pays-Bas, 100% de l'azote des matières organiques rentre dans le bilan. Il y a des pays, c'est moins de 20%. Et compte tenu des quantités utilisées, ça aboutit à des préconisations de minéraux très très différentes. Donc ça, c'est un des postes qui, même en France, ne fait pas l'unanimité sur on l'utilise, on l'utilise pas, on en tient compte dans l'humus ou pas. Là, il y a une grosse marge de progrès pour homogénéiser les pratiques, surtout là-dessus. Voilà.
Merci. Y a-t-il d'autres, une dernière question, un dernier commentaire là devant, Philippe?
Pardon. Oui, bonjour, Laurent Fay, Chambre d'agriculture d'Île-de-France. Qu'en est-il de l'obligation de mesures de reliquats sorties d'hiver sur la culture du colza? Puisque jusqu'alors, on avait une pratique qui consistait à considérer que le colza, sauf cas très exceptionnel, prélevait une grosse partie du reliquat d'azote. Et donc de prendre forfaitairement 10 à 20 unités d'azote de reliquat.
Qu'est-ce qui est prévu? Ce qu'il faudrait voir, c'est dans ton programme d'action, régional, parce que au niveau national, il est demandé une analyse, hein, une analyse de sol correspondant au modèle utilisé dans la région. Donc il n'est pas dit que ça soit sur colza ou pas. Donc c'est une analyse par exploitation. Région centre, certains départements avec deux analyses de reliquats, mais on choisissait la culture. En Seine-et-Marne, le quatrième programme, il y avait un truc vachement compliqué où il précisait en fonction de la culture, pas de la culture, et des trucs comme ça. Donc en Île-de-France, je ne sais pas ce que... Il faut regarder ce qui est mis dans les graines. Alors le nombre d'analyses de reliquats, en région centre, c'est comme ça. C'est mis en même temps dans l'arrêté graines et ça va être mis en même temps dans l'arrêté directive nitrate. Donc on a dit qu'il fallait que ce soit la même chose. Mais pour nous, on n'a pas de précision sur la culture. Et effectivement, on a dû mettre quelque chose sur qui était plus pertinent de faire une pesée de colza ou de faire du Farmstar. Ou alors maintenant, il y a Erinov là, qui fait des trucs sur la mesure du développement du colza. Mais c'est vrai qu'on privilégie plutôt ça que le reliquat sur colza. Mais ça, faut regarder dans ce qui est écrit au niveau régional. Hein, et s'il faut modifier des trucs, faut que tu vois en Île-de-France avec Laurence Sablier, parce que je crois que c'est elle qui suit ça, puis Laurent Royer de Seine-et-Marne, pour voir ce qui est écrit. Mais c'est au niveau régional que ça va être défini, quoi.
Il y a Luc Champollivier du 7e dans la salle, je crois. Je ne sais pas s'il veut rajouter quelque chose sur le colza. Non. Je le vois pas. Si, pardon. Youp. Je vais y arriver, je vois toujours pas. Non ? Ah bon, alors voilà, je...
Bon.
Bon, tout a été dit. Reliquat sorti hiver sur colza, relativement peu utile.
C'est ça. Ça peut être utile s'il y a des colzas qui ont reçu des matières organiques au mois d'août et puis qui sont encore un petit peu, peu rachitiques en janvier. Quoi.
Exactement, des défauts d'absorption d'apport organique à l'automne, effectivement, peuvent justifier la mesure de reliquat. Mais dans la grande majorité des cas, effectivement, ce qu'il faut privilégier et ce qui est le plus variable, c'est la quantité d'azote absorbée.
Je pense que... Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier commentaire? Sinon, je vais conclure sur cette session. À devant, voilà.
Oui, je redescends. C'est bien.
Donc, Dominique Romelot, Axéréal. J'aurais voulu savoir quelle était l'échéance envisagée pour la validation des outils. Parce qu'actuellement, ils sont pratiqués. On parle de validation régionale ou bien nationale, puis après, on revient du régional. On ne sait plus où on en est.
Ça devrait être courant 2014, alors comme tout prend du retard, mais a priori c'est ça qui est prévu.
On n'a pas d'échéance précise fixée pour le moment. En effet, on va poursuivre la réflexion avec tout le travail qui est en cours aussi au niveau du commifère pour voir quelle modalité on retient et à quelle échéance, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment.
Et peut-être souligner que sur le groupe de travail commifère RMT, le chantier est en cours. Hein, celui de, non pas de, nous ne faisons pas la validation des outils, nous mettons point la méthodologie et les protocoles en fait qui permettraient de tester et de valider des outils. Hein. On ne s'occupe pas de décider. C'est bien la responsabilité des graines et pas le plan national d'exclure ou de valider des outils.
Ça donne l'occasion également de saluer Marion Bouviala. Alors voilà, au milieu, si tu veux te lever. Voilà, l'agronome recruté par le commifère et qui poursuit ses missions avec un comité de pilotage donc, qui a été décrit, dont Bernard Verbeek fait partie, qui représente à la fois le RMT Fertilisation et Environnement et le commifère. Voilà. Donc on compte sur toi, Marion, sur le comité aussi.
Bon, je pense qu'on va conclure. Avant de conclure et de remercier Bernard, donc je voulais ressouligner la disponibilité des éléments sur le site du commifère. Donc ici, tout le monde est adhérent, mais en plus, on n'a pas besoin d'être adhérent pour accéder à cette rubrique bilan azoté. Donc il y a beaucoup de choses et c'est organisé de manière très pédagogique. Hein. Moi-même, j'ai utilisé par exemple les fiches culture. Donc je vous réincite vraiment à aller visiter cette section bilan azoté et à profiter de toutes les informations qui sont dessus. Donc je vous propose de remercier Bernard et puis tous les intervenants de la discussion.